en rediffusion sur VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du vendredi 30 octobre 2020. Abdourahmane Dia, la présentation, voici les titres. Élection présidentielle en Côte d'Ivoire, demain samedi, par crainte de violence, mais aussi pour aller voter, beaucoup d'Ivoiriens quittent les villes pour la campagne. La police nigériane affirme que 22 de ses éléments ont été tués lors des récentes manifestations. Élections présidentielles et législatives en Tunisie, le parti au pouvoir largement en tête. L'actualité sportive, ce sera avec Yacouba Ouédraogo peu après ce journal. Mais nous démarrons cette édition par notre page spéciale consacrée à la présidentielle américaine. À 4 jours de la présidentielle américaine, le président républicain Donald Trump et son adversaire démocrate Joe Biden accélèrent le rythme de leur meeting aujourd'hui. Pas moins de 3 pour le locataire de la Maison Blanche, après la Floride où les deux candidats étaient en campagne hier. Le point avec Jacques Aristide.
C'est à Tampa, en Floride, que les deux rivaux se sont rendus hier. Coiffés d'une casquette rouge, Make America Great Again, le président Donald Trump était accompagné de son épouse Melania. Le locataire de la Maison Blanche s'est dit confiant de gagner la Floride et 4 ans de plus. Il s'est félicité de la hausse de 33,1% du produit intérieur brut au troisième trimestre et il est revenu sur la pandémie du coronavirus.
Nous connaissons la maladie, nous nous éloignons socialement, nous faisons tout ce que nous avons à faire. Si vous approchez de quelqu'un, portez un masque. Cela fait toujours polémique. Ce n'est pas controversé pour moi. Vous approchez, vous portez un masque, distance sociale. Mais l'essentiel, c'est que vous allez vous sentir mieux. Vous allez vous sentir amélioré. Si je peux aller mieux, n'importe qui peut aller mieux. Et je me suis senti mieux rapidement.
Quelques heures plus tard, pas loin de là où le président Trump a tenu son meeting en extérieur, son challenger Joe Biden s'est adressé à ses partisans dans un rassemblement en drive-in depuis leur voiture. Pour l'ancien vice-président, porter un masque, respecter les gestes barrières n'est pas une prise de position politique, c'est un devoir patriotique. S'il était élu, poursuit Joe Biden, il mettrait en place un plan pour gérer la pandémie de façon responsable.
Donald Trump a abandonné au cours du week-end. Son chef de cabinet à la Maison Blanche a déclaré, et je cite, « Nous n'allons pas contrôler cette pandémie ». Lors du débat de la semaine dernière avec Donald Trump, il a déclaré, « Nous inversons la courbe, ça s'en va, nous apprenons à vivre avec ». Non, il s'attend à ce que nous apprenions à mourir avec. C'est ce que je lui ai dit. Il ne fait rien.
Aujourd'hui, le président Trump enchaîne 3 meetings au Michigan, Wisconsin et Minnesota. Son rival Biden en a prévu 2 en Iowa et au Minnesota en mode drive-in et un discours à Milwaukee dans le Wisconsin.
Les militaires américains à la retraite ont tendance à voter républicain aux élections présidentielles et une majorité le fera probablement encore cette année. Mais la correspondante de VOA au Pentagone, Carla Babb, rapporte que certains sondages suggèrent que l'avance du président parmi les anciens combattants pourrait s'éroder. Le récit de Lionel Gaïma.
Un récent sondage du journal Military Times montre que 52% des anciens combattants soutiennent Trump.
Je pense que beaucoup de gens regardent le président Trump et se disent « Je peux voter pour lui car il tient à ses promesses ».
Jeff Jordan est issu d'une longue lignée d'anciens combattants. Il a servi en Irak et en Afghanistan. Il est d'accord avec Trump sur la réduction des troupes en Afghanistan et les négociations avec les talibans.
Je pense qu'à ce stade, se retirer est la bonne décision parce que, regardez, nous sommes en Afghanistan depuis près de 20 ans. Et pour quel résultat?
Non seulement Jordan a apporté son soutien à Trump, mais il a décidé de se présenter au Congrès. Une bonne partie de sa campagne cible les anciens combattants, plus âgés comme Curtis Herrick, un pro-Trump qui a fait la guerre au Vietnam.
Si vous pensez qu'il a un mauvais caractère et que vous ne pensez pas à tout le reste, vous pourriez jeter le bébé avec l'eau du bain alors qu'il produit des résultats.
Eric dit qu'il aime les compétences décisionnelles de Trump.
Il travaille environ 20 heures par jour et il décide très rapidement. Lorsque le président Obama a eu la première poussée, il a été angoissé pendant 9 mois avant de prendre la décision.
Mais environ 42% des anciens soldats interrogés disent préférer Joe Biden à Donald Trump.
Je n'ai jamais voté pour un démocrate.
Parmi eux, Jim Naylor, un républicain de longue date et ancien marine qui a voté Trump en 2016.
Je l'ai regretté. Après cela, je me suis senti sale.
Naylor a créé une vidéo virale pour le groupe électeur républicain contre Trump après que le président a critiqué les anciens combattants et les militaires, dont le regretté sénateur John McCain, l'ancien secrétaire à la défense Jim Mattis et le lieutenant-colonel Alexander Vindman, qui a témoigné contre Trump sur l'Ukraine lors de la procédure de destitution. Naylor a également déclaré que le retrait des troupes de Syrie en octobre dernier avait déshonoré l'armée.
Ils ne sont pas rentrés. Il les a envoyés dans des pays qui payent pour que nous soyons là-bas. Il les a envoyés en Arabie Saoudite parce que l'Arabie Saoudite paye. Cela semble tellement contraire à ce pourquoi nous nous battons. Nous ne sommes pas des mercenaires. Nous ne nous battons pas pour les plus offrants. Nous nous battons pour des causes justes.
Selon le sondage, près de deux tiers de femmes anciennes de l'armée désapprouvent la présidence de Trump. Lawrence Sims, une ancienne de la marine, compare la gestion de la pandémie de coronavirus par Trump à un navire en pleine tempête.
Le travail de Donald Trump est de bien tenir la barre, de combattre cette pandémie. Il n'a pas défini de cap, même pas fait de correction. C'est effrayant. Je crois vraiment que Joe Biden, lui, le fera.
Tout comme les électeurs indécis dans la population générale, un petit pourcentage d'anciens combattants reste indécis.
Mon choix, c'est entre le cyanure et l'arsenic.
Josh Hill, un ancien de la guerre d'Irak, n'a voté pour aucun grand parti la dernière fois, en signe de protestation. Et cette fois encore, il n'aime aucun des candidats.
La Côte d'Ivoire retient son souffle à la veille de la présidentielle du 31 octobre, maintenue par le pouvoir. L'opposition a appelé à la désobéissance civile. Le point avec Yacouba Betraogo.
Jeudi soir, de retour des meetings, le convoi du secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi, a été mitraillé près d'Agbaou, à 150 km d'Abidjan. Personne n'a été touché. Monsieur Hachi va bien, a déclaré l'entourage du directeur de campagne d'Alassane Ouattara. L'opposition, menée par Henri Kouna Bédié et Pascal Affi-Nguessan, eux-mêmes candidats, maintient son mot d'ordre de désobéissance civile. Violence et affrontements intercommunautaires ont fait une trentaine de morts selon le pouvoir, 70 d'après l'opposition. Apeurés, certains Abidjanais quittent la capitale économique pour l'intérieur du pays. Ce qui nous attend, c'est la catastrophe, a déclaré hier l'ancien chef d'État Laurent Gbagbo dans sa première déclaration publique depuis presque 10 ans. Discuter, négocier, parler ensemble, il est toujours temps de le faire, a insisté l'ancien président. Beaucoup d'Ivoiriens ont encore en mémoire la crise post-électorale de 2010-2011 qui avait fait près de 3 000 morts.
Par ailleurs, des incidents ont éclaté ce matin à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, et à Bonoua, ancien fief de l'ex-première dame Simone Gbagbo. Plusieurs centaines de jeunes manifestants ont été dispersés par les forces de l'ordre. Au Nigeria, la police a affirmé aujourd'hui que 22 de ses membres ont été tués et de nombreux autres blessés dans les manifestations d'octobre. C'était au cours du mouvement de contestation populaire qui a secoué le sud du pays. Le point avec Eric Manerekiza.
Plusieurs policiers blessés sont entre la vie et la mort dans les hôpitaux. 250 postes de police et infrastructures privées ou publiques ont été endommagés par une partie des manifestants, a affirmé le porte-parole de la police, Frank Mba. Certaines de ces manifestations avaient dégénéré et débouché sur plusieurs jours d'émeutes et de pillages. Amnesty International parle d'au moins 56 morts, sans préciser le décompte entre les civils et les forces de l'ordre. Nos policiers n'ont jamais eu illégalement recours à la force et n'ont pas tiré sur les manifestants, s'est défendue la police nigériane, qui rejette le rapport d'Amnesty qualifié de faux et trompeur. Plusieurs vidéos relayées sur les réseaux sociaux montrent des hommes en tenue militaire tirer sur une foule pacifique qui brandissait des drapeaux en chantant l'hymne national. L'armée a nié avoir tiré.
En Tanzanie, le président sortant John Magufuli est assuré d'être réélu. Les premiers résultats officiels le créditent d'un score de 85% et le parti au pouvoir CCM obtient une large majorité au Parlement. Les résultats annoncés sur environ 200 circonscriptions sur 264 ne donnent que 2 sièges à l'opposition. Nathalie Barche.
Plusieurs figures du Chadema, principale formation de l'opposition, ont perdu leur siège, dont le président du parti, Freeman Mbowe, député depuis 20 ans, est également battu. Ali Mamdi, chef de la branche des femmes du Chadema et critique virulente du président Magufuli, qui avait été brièvement arrêté le jour du scrutin, après avoir dénoncé la découverte dans sa circonscription d'urnes remplies de bulletins précochés en faveur de son adversaire du CCM. Sur l'archipel de Zanzibar, dont les quelques 556 000 électeurs votés pour le scrutin national, mais aussi pour élire leur propre président et parlement, c'est également le candidat du CCM, Hussein Mouini, qui l'a largement emporté. L'opposant Tundu Lissou, principal adversaire du président sortant John Magufuli, a rejeté l'ensemble des résultats avant même qu'ils ne soient publiés. La Tanzanie n'autorise pas de contestation en justice du résultat de la présidentielle, mais une procédure est possible pour les législatives. Monsieur Lissou a appelé ses partisans à des manifestations démocratiques et pacifiques.
La pandémie de coronavirus continue de s'aggraver à travers le monde. Résultat, plusieurs pays ont réimposé le confinement généralisé, comme en France, où la mesure est entrée en vigueur vendredi. Les États-Unis ont atteint jeudi un nombre record de 90 000 cas positifs en 24 heures. Le ministre français des Affaires étrangères a appelé les ressortissants français vivant à l'étranger à la prudence au lendemain de l'attentat de Nice, estimant que la menace contre les intérêts français était partout. Le message d'urgence attentat a été envoyé hier soir à l'ensemble de nos ressortissants à l'étranger, quels que soient les lieux, puisque la menace est partout, a déclaré Jean-Yves Le Drian à l'issue d'un conseil de défense. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir à tous. Le Niger a été tenu en échec par le Mali, un but partout lors du match amical international joué hier au stade général Seynou Koundié de Niamey. Cette rencontre rentre dans le cadre des préparatifs du championnat d'Afrique des Nations CHAN Cameroun 2021. Pour le coach du Niger, Haruna Doula, c'est un bon résultat, d'autant plus que c'est le début de la nouvelle saison dans son pays.
Pour un peu match, parce qu'il y en a qui n'ont pas joué une journée de championnat. Il ne faut pas oublier qu'on est en début de saison, on est en préparation physique. On a vu des bonnes choses par moment, mais hachées, parce qu'il n'y a pas assez de ressources pour continuer à mettre la pression.
Haruna Doula, entraîneur du MENA APIM, pour son homologue malien Noum Diané, ce match amical lui a permis d'évaluer son équipe.
Et on a commencé la préparation, ça fait juste 3 semaines. Ça permet quand même de nous situer par rapport au groupe que nous avons, aux joueurs, au collectif. Je pense qu'on a assisté à un bon match des deux côtés. Je pense que le Niger a produit du football, du beau football. Et nous aussi, on a essayé de jouer. Réellement, il y a eu des occasions des deux côtés.
Noum Diané, coach des Aigles locaux du Mali. Ici, aux États-Unis, la MLS, le championnat nord-américain de football, va modifier son système de classement pour cette saison régulière en appliquant une moyenne de points remportés par match disputé pour ne pas pénaliser les équipes dont les rencontres ont été annulées en raison du COVID-19. La MLS, qui avait dû interrompre sa saison pendant 4 mois en raison de la pandémie, a indiqué que celle-ci prendrait fin le 8 novembre, aucun match n'étant programmé pendant la fenêtre internationale de ce mois. Les Colorado Rapids, notamment, ne disputeront pas les 5 rencontres initialement reprogrammées après leur report en raison du cas de coronavirus. Avec le nouveau système de classement, Colorado occupe la 8e place de la conférence Ouest, ultime rang qualificatif pour les playoffs, bien que
comptant moins de points, 19 en 15 matchs, que ses rivaux qui le suivent, Vancouver, 24 points en 21 matchs, et Salt Lake, 22 points en 20 matchs, et Houston, 21 en 21 matchs. À l'Est, où les 10 premiers seront qualifiés pour les playoffs, le différentiel du nombre de matchs joués est bien moindre puisque les équipes en sont à 20 ou 21.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. À la veille de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, les populations retiennent leur souffle. À Boaké, certains vivent dans la crainte et d'autres dans l'assurance que tout va bien se passer. De Boaké, la correspondance d'Aïcha Diarra.
À la gare routière de Boaké, nous assistons à un palais incessant de voyageurs. Situation qui n'est pas pour déplaire à ses responsables qui se frottent les mains en cette période électorale très particulière. Dosso Mamadou est l'un des leaders syndicaux de cette gare. Parmi ses clients, un bon nombre d'élèves et étudiants.
Voilà, vu que les étudiants, en grand nombre, n'ont pas la famille sur place. Donc, peu importe les différentes contrées, les localités, les parents souhaitent que les enfants viennent en famille pour véritablement vivre les moments des élections en famille. Ouais, ça bouge beaucoup, ça vient comme ça va aussi.
Venu faire un tour à la gare, Broboni Lucien préfère rester à Boaké malgré sa grande peur. Une psychose renforcée par les réseaux sociaux.
Oui, je crains beaucoup. Les entends sur les réseaux sociaux, moi je crains beaucoup de choses au fait.
De la gare routière, nous mettons le cap sur le quartier commerce de Boaké. Ce secteur est le poumon économique de la ville. Les commerces ne désemplissent pas en cette période. À l'entrée d'un centre commercial, les vendeurs de cache-nez sont au rendez-vous. Car il faut obligatoirement le masque pour entrer dans cet espace public. Interrogée sur les élections de demain, la vendeuse Leila, avec son lot de cache-nez en main et sourit aux lèvres, affiche son optimisme.
Non, ça ne me fait pas peur. Donc, on doit se relaxer, quoi. Rien ne va se passer. Tout le monde n'a qu'à rester calme, n'a qu'à se relaxer. Les élections vont bien se passer, quoi.
À l'intérieur, tout le monde se précipite pour faire ses emplettes. Keita Moussa a déjà acheté 4 sacs de riz, un gros bidon d'huile et des provisions. Achat de fin de mois ou préparatif au pire. Une fois à la caisse, il se dit serré.
En fait, là, ça va par rapport à une crainte liée aux élections parce qu'à Boaké, s'il n'y a pas de violence, s'il n'y a pas d'animosité entre les populations, donc nous, on est serein ici. Oui, les élections vont bien se passer. Nous sommes sûrs de ça. Nous, on va voter le samedi 31 octobre. Tout de suite, on rentre chez nous, il n'y a pas de problème.
Anoko Blandine, elle continue ses courses au rayon des sacs de riz pour ses provisions. Elle est passée du simple au double par crainte de troubles post-électoraux.
Parce qu'on entend beaucoup de choses ci et là. Donc c'est plus par crainte d'être à court de nourriture, ne pouvons sortir. Donc on fait quelques emplettes, quoi. Je ne suis pas sereine au vu de tout ce qui se passe actuellement. Oui.
Déjà à moins de 24 heures du scrutin, des tensions sont signalées dans certaines localités de la Côte d'Ivoire, telles que Yamoussoukro et Koun-Fao. Aïcha Diarra à Boaké pour VOA Afrique.
Au moins 140 candidats à l'immigration clandestine vers l'Europe se sont noyés après le naufrage d'une pirogue au large des côtes sénégalaises. C'est le naufrage le plus meurtrier enregistré en 2020. Que s'est-il réellement passé? Que faire pour éviter ce genre de tragédie? Nani Talani a joint à Dakar Bakary Doumbia, chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations au Sénégal.
Effectivement, le week-end dernier, il y a eu un naufrage. C'était un bateau de migrants qui était en partance pour l'Europe et départ pris à partir du Sénégal. Et le bateau s'est explosé. Et donc, il y a eu une vingtaine de morts. Il y a eu aussi 59 personnes qui ont été secourues par le gouvernement du Sénégal. Et le reste des personnes autour de 120 jusqu'à maintenant n'avaient pas encore été retrouvées. Et donc, il y a de fortes chances que ces personnes n'aient pas survécu. Quelques corps ont été retrouvés. Cela va dans le sens du fait que le nombre de personnes qui seraient mortes dans cet accident pourrait être très, très élevé.
Mais quelle est la cause de ce naufrage?
Vous savez que les embarcations qui partent, ce sont des embarcations qui parcourent de grandes distances. Et ces embarcations-là ont aussi du carburant avec eux pour recharger le moteur en cas de besoin. Et donc, l'explosion a eu lieu en mer, sur la côte. Donc, le bateau est allé comme ça.
D'accord. Mais qu'est-ce qui fait partir ces jeunes malgré tous les risques qu'ils encourent?
Vous savez, la migration irrégulière est un phénomène qui est très complexe. Donc, il est difficile de dire qu'il y a une seule raison. Il peut y avoir une raison, mais il peut y avoir une multitude de raisons. Ce qu'on peut dire, c'est que il y a eu depuis un certain temps, surtout avec la COVID, vous savez qu'il y a eu beaucoup de frontières qui ont été fermées et le départ par la route se fait de plus en plus difficilement. Et donc, pour pouvoir partir, puisque les migrants tiennent toujours à partir, il faut aussi dire que les routes de la migration, ce sont des routes qui sont dynamique. Donc, si les migrants n'ont pas la possibilité d'utiliser une route, ils utilisent une autre route.
Effectivement, on aimerait voir ce qu'on doit faire ou bien ce qu'on peut faire pour éviter ce genre de tragédie.
Donc, en résumé de votre question, la lutte contre les réseaux de passeurs, la sensibilisation faite à plusieurs niveaux dans les zones rurales et dans les zones urbaines pour les populations et les potentiels migrants, et aussi la présentation des potentiels, des possibilités de migration régulière, que ce soit en Europe comme en Afrique, et en plus de cela, les opportunités qui existent ici au Sénégal, que cela soit connu de tous, pour pouvoir vraiment assurer que une bonne lutte est faite contre la migration irrégulière.
C'était Bakary Doumbia, chef de mission de l'OIM au Sénégal.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
La présidentielle américaine est bien suivie au Burkina Faso, que ce soit Donald Trump ou Joe Biden, chacun a ses admirateurs. Les avis restent bien partagés. Les analystes pensent que cette élection américaine a une répercussion certaine sur le continent africain. De Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
Si la semaine prochaine, les États-Unis connaîtront leur nouveau président à des milliers de kilomètres à Ouagadougou, la présidentielle américaine est commentée. Les avis sont partagés.
Je pense que Joe Biden, en tout cas, part avec un certain avantage.
Ousmane Rwamba, étudiant en économie en fin de cycle.
Étant donné qu'il a un bon tempérament, il connaît en tout cas beaucoup de trucs par rapport à Donald Trump. Bien vrai que Donald Trump est le président actuellement, mais je pense que Joe Biden est favori.
Anissé Sawadogo est étudiant en droit.
Joe Biden doit être en meilleure position par rapport à Donald Trump. Au regard des sorties médiatiques de l'ancien président Barack Obama dans ces deux jours, j'ai ouï dire qu'actuellement, il est en train en tout cas de donner beaucoup de points à Joe Biden par rapport à Donald Trump qui perd des points chaque jour à l'approche des élections.
Kiswensida Kabore, étudiant en sciences juridiques et politiques.
Quoi qu'on dise sur Donald Trump, j'avais une réalité sur la personne où il nous épate et il nous surprend à tout moment. Et sur le plan international, nous voyons les actions qu'il pousse. Il n'a pas besoin de tenir compte sur certain nombre de choses avant de faire certaines choses. Donc moi, je vois une personne qui semble être réaliste et une personne républicaine. Donald Trump, je vois qu'il a une position bien placée.
L'élection présidentielle dans un pays comme les États-Unis a une répercussion certaine sur l'Afrique et le reste du monde, selon Pazien, analyse politique.
Nous souvenons que lorsque Barack Obama est arrivé au pouvoir, cela a suscité un intérêt pour les Africains parce de part donc les origines de Barack Obama lui-même. Aujourd'hui, qu'il s'agisse du démocrate Joe Biden ou du républicain qui est l'actuel président, je pense que cela présente des intérêts certains.
Et voilà ce que pense l'analyste en cas de victoire de Donald Trump ou de Joe Biden.
Si le président actuel lequel Donald Trump est réélu, nous allons assister donc à une plus grande austérité en ce qui concerne l'aide publique au développement. Contrairement donc à Joe Biden, où on pourrait espérer plus de largesse au niveau donc social, en cas de victoire du démocrate Joe Biden, c'est qu'il y aura beaucoup plus une ouverture, beaucoup plus de dialogue, beaucoup plus d'accompagnement des pays, surtout en voie de développement.
À mardi prochain, donc, pour savoir qui de Donald Trump ou de Joe Biden remportera cette présidentielle. Les Burkinabés resteront scotchés. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
VOA Afrique vous invite à suivre toute l'actualité sur les élections américaines 2020 et la course à la Maison Blanche. Des reportages, des analyses, des témoignages et des éditions spéciales qui vous font vivre tous les jours et en temps réel le déroulement de la présidentielle américaine du 3 novembre. Vous pouvez aussi participer à la conversation et réagir depuis votre pays. Le président Donald Trump sera-t-il réélu? Le démocrate Joe Biden pourra-t-il gagner face à son rival républicain? Rendez-vous sur votre fréquence de VOA Afrique et sur nos stations partenaires. Retrouvez également les sujets traités sur votre site voaafrique.com et sur Facebook.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Lionel Gaïma et Michel Joseph. À la présentation, Abdoul Kwandia. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voaafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
La liberté religieuse est un droit fondamental inscrit dans le premier amendement de la Constitution des États-Unis. Le Congrès ne pourra faire aucune loi ayant pour objet l'établissement d'une religion ou interdisant son libre exercice. Peter Berkowitz, directeur de la planification politique au département d'État, a dit qu'il y a une corrélation entre les pays protégeant la liberté religieuse et ceux qui respectent d'autres droits fondamentaux. Nous savons de manière empirique de la forte corrélation entre les pays qui protègent la liberté religieuse et les pays protégeant toutes les autres libertés dont les États-Unis se soucient traditionnellement. Et cela, bien sûr, a un sens si vous protégez la liberté d'avoir une divergence d'opinion concernant l'une des questions au sujet de laquelle les êtres humains se sont battus le plus, la divergence d'opinion au sujet de Dieu. Des pays autoritaires, y compris la Chine, l'Iran et la Russie, soutiennent que, parce que les États-Unis n'appliquent pas de manière parfaite les droits humains chez eux, ils ne sont pas en position de promouvoir de tels droits à l'étranger. Mais le directeur Berkowitz qualifie cette idée d'outrageante.
There is a fundamental difference between liberal democracies.
Il y a une divergence fondamentale entre les démocraties libérales comme les États-Unis et qui sont ancrées dans une affirmation des droits humains et des pays comme la Chine, l'Iran, la Russie qui rejettent l'idée même des droits humains. Bien sûr, je ne vais pas nier qu'il existe de courageux dissidents en Russie, en Chine et en Iran. Nous savons qu'il en existe, mais il n'est pas permis à la société politique dans son ensemble d'avoir de telles conversations. La Déclaration d'indépendance des États-Unis et la Déclaration des droits de l'homme de l'ONU, a dit le directeur Berkowitz, ont mis place une norme universelle de jugement de toutes les formes de gouvernement. Et c'est à cela que tous les gouvernements doivent aspirer. Il a exprimé l'espoir que les peuples en viennent à apprécier que la démocratie libérale soit la forme de gouvernement la mieux à même de défendre les droits humains.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.